9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est donc le départ d'un juge. Renaud Van Rimbeek, le juge sans doute le plus célèbre de France, dont le nom a surgi une première fois en 79, à la mort du ministre Robert Boulin, c'est lui qui instruisait le dossier. Il eut ensuite 40 ans de dossiers sensibles et de grandes affaires politico-financières, 40 ans de bataille contre le pouvoir, contre tous les pouvoirs. Renaud Van Rimbeek, 66 ans, a pris sa retraite hier et il est notre invité unique, exclusif jusqu'à 10h, pour évoquer son métier, ses combats, quelques-uns de ses dossiers, les politiques qu'il a convoqués, inculpés ou mis en examen, et puis son autre passion pour le piano classique.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine
avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Renaud Van Rimbeek.
Bonjour Patrick Cohen.
Alors c'est fini, vous avez refermé tous vos dossiers, tiré un trait sur votre vie de juge.
Oui. Oui, oui.
On ne dira plus le juge Van Rimbeek.
Non, je m'appelle Renaud.
Vous quittez le pôle financier du tribunal de Paris et la magistrature 42 ans après y être entré. Dans quel état d'esprit ?
Je suis content de partir. Tout a une fin. Moi, j'ai le sentiment d'avoir fait ce que je devais faire, le mieux possible. Et puis, l'âge est là, donc il faut aussi passer la main. Et puis, il y a des jeunes qui prendront le relais. C'est très bien.
On va revenir sur quelques épisodes marquants de votre carrière et de vos dossiers, mais est-ce que vous êtes globalement dans l'idée d'avoir un peu ou beaucoup fait avancer les choses ?
J'ai un petit peu contribué à mon niveau, si vous voulez, mais en étant un juge d'instruction de base. J'ai rencontré un certain nombre de difficultés, d'épreuves, etc., liées au fait que j'ai instruit des dossiers, notamment politico-financiers, et que lorsque je suis rentré dans la magistrature, en 77, c'était pas dans les mœurs de la maison, c'est le moins qu'on puisse dire. Prenez sous la 5e République, la 4e République, etc. Le nombre de scandales qui ont été étouffés, et la justice n'allait pas mettre les pieds dans ces domaines-là. Donc, si vous voulez, en y allant, je me suis trouvé face à des ripostes en face, auxquelles je ne m'attendais pas d'ailleurs, mais auxquelles je me suis habitué. Voilà.
Donc l'argent sale est davantage traqué aujourd'hui qu'au moment où vous avez enfilé la robe. Les corrompus ont davantage raison de vous craindre, enfin de craindre les policiers et les magistrats spécialisés.
Oui, parce que la justice fait son travail dans ce domaine-là, comme elle le fait pour tout le monde. C'est le principe fondamental de l'égalité devant la loi qui est important. Et ce qui est triste, c'est si les gens ont encore le sentiment aujourd'hui qu'il y a des privilégiés, qu'il y a des gens qui s'en sortent mieux que les autres. Je peux vous dire qu'au niveau de la justice a énormément progressé à ce niveau-là, et d'ailleurs avec le soutien, j'allais dire de l'opinion publique, mais du citoyen, parce que ce sont des actes citoyens.
Est-ce que le parquet est plus libre ou plus indépendant aujourd'hui qu'il y a 40 ans du temps de l'affaire Boulin ?
Oui, c'est manifeste. Ceci dit, la réforme du statut du parquet n'a pas été faite. C'est-à-dire qu'ils sont toujours statutairement dépendants du pouvoir politique. Le lien n'a pas été coupé complètement entre le pouvoir politique et la magistrature, notamment à travers les parquets.
Je viens de la citer, l'affaire Boulin, ou plutôt celle de la vente des terrains de Ramatuelle, c'est celle qui vous a tiré de l'anonymat, qui vous a fait vous demander si votre enquête a provoqué la mort d'un homme. Ça provoque quoi chez un jeune juge de 27 ans ? Qu'est-ce que ça a changé ?
Ça n'a rien changé à la méthode, si vous voulez. Je travaille aujourd'hui comme je travaillais à l'époque. Rien n'a été changé. Par contre, humainement, ça a été terrible. J'avais 27 ans. Il y a cette lettre qui est publiée par la presse, puisque Robert Boulin l'envoie à la presse. Il est mort.
Et qui vise principalement le garde des Sceaux, Alain Perfit, et le juge chargé de l'enquête, c'est-à-dire vous-même, Renaud Van Rimbeek.
Et l'escroc Tournet.
Henri Tournet.
Mais quand on analyse cette lettre, ça n'a pas de sens, parce qu'on ne peut pas imaginer, à l'écouter, si vous voulez, on ne peut pas imaginer qu'un juge rouge, puisque je suis taxé de... Vous savez, les petits juges rouges à l'époque, le juge haineux de la société, ne pouvait pas dire qu'il y a raisonnablement qu'il peut y avoir un pacte entre un juge, un petit juge rouge, un garde des Sceaux de droite qui a fait les lois sécurité et liberté à l'imperfite, et un escroc. Enfin, juste, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que, pour Robert Boulin, il assimile tout ça et il se pose en victime de ce trio infernal. Mais c'est aberrant. Donc, quand j'ai vu cette lettre, je me suis dit, mais c'est juste n'importe quoi. Et puis, je ne pouvais pas répondre. Un juge, déjà, ne peut pas répondre à une personne mise en examen qui l'attaque, encore moins quand cette personne est morte. C'est impossible. Donc, il y a le respect du humour. Donc, je vois débarquer toute la presse le jour de la publication de cette lettre. J'étais à Caen, je ne connaissais pas la presse. Et je vois débarquer toute la presse et j'ai l'impression que ça va être une mise à mort. Mais moi, je suis loin de tout ça. Moi, j'enquête sur une affaire de terrain, une affaire d'escroquerie. J'avance, je progresse et tout d'un coup, mort de Robert Boulin, que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais rencontré, que je n'ai jamais interrogé.
Oui. Vous connaîtrez tout ça à nouveau sous la gauche avec l'affaire Urba en 92. On va y revenir un peu plus tard. Si vous vous posez ces questions et si vous dites cela à propos de Robert Boulin, Renaud Van Ruymbeck, ça veut dire que vous ne croyez pas à la thèse de l'assassinat.
Non. Non, je n'y crois pas du tout. Ceci dit, l'enquête a été mal faite, hein, notamment l'autopsie, donc il y a des blancs, mais tous les éléments dont je peux disposer, mais je n'ai pas enquêté dessus, hein, mais c'est tout ce que je peux savoir par rapport à cette lettre, la psychologie de Robert Boulin, ce que j'en ai lu, personnellement, mais ce n'est que mon avis, je suis convaincu que c'est un suicide.
On a posé le cadre, Renaud Van Ruymbeck, on va marquer une pause avant de tirer quelques fils de votre vie de juge.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Avec Renaud Van Ruymbeck, le juge de presque toutes les affaires ou les feuilletons politico-judiciaires de ces 30 dernières années dans le désordre. Balkany, Cahuzac, Sarkozy, Karachi, Kerviel, les frégates de Taïwan, Elf, Urba, Emmanueli, Clearstream, Big Malion et encore Uramin, Boulin, on en a parlé, Caroline Dickinson, Rifat el-Assad. Ce qui fait que tout le monde connaît votre nom. Renaud Van Ruymbeck, et depuis très longtemps. Cette notoriété, vous l'avez vécue comme un fardeau ?
Non. Non.
Parce qu'elle a permis, elle a été une chance pour faire avancer vos dossiers parfois ?
Oui, bien sûr. Le rôle de la presse est très important. N'oubliez pas que dans une véritable démocratie, il faut une justice libre, une presse libre. Et heureusement qu'il y a des journalistes d'investigation qui rendent compte des enquêtes, qui explique ce qui se passe, parce que ça empêche l'étouffement des affaires. Quand un parquet étouffait des affaires il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, et que la presse écrivait, elle empêchait l'étouffement de l'affaire.
Ce qui vous a précédé dans le traitement de vos dossiers, c'est aussi, et d'abord, une réputation, celle du juge méticuleux et tenace, celui qui se bat contre la corruption et l'argent sale, le pourfendeur des puissants. Vous n'êtes pas indifférent à cette réputation.
Non, mais je ne suis pas non plus un justicier. Je ne suis pas là pour régler des comptes, qu'on soit puissant. Moi, simplement, c'est l'égalité. Voilà, je n'accepte pas l'idée qu'il y ait des privilégiés vis-à-vis de la justice. Voilà. Mais une fois que ça s'est dit, il n'y a pas spécialement à mettre le focus sur des puissants, des riches, le pouvoir politique, et les traiter différemment des autres. Le problème, c'est l'inverse. Il faut les traiter de la même manière. Il faut que la justice soit égale pour tous. Et je pense que c'est fondamental pour le citoyen, parce qu'il ne peut pas accepter l'idée qu'il y ait des gens privilégiés, notamment vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de l'impôt, vis-à-vis de tout ce que vous voulez, c'est pareil.
Comment vous définiriez votre métier ? Juge, enquêteur, homme en quête de vérité ?
Les trois. Vous avez parfaitement synthétisé mon métier.
En quête de vérité, mais la vérité au service de qui ? De l'État, du peuple, d'une idéologie, d'une morale ?
L'État, oui. Le peuple, oui. Parce qu'on rend la justice au nom du peuple français. Une idéologie, ça me fait peur.
Ouais.
Une morale, non. Le juge fait du droit, il est tenu par la loi, il ne fait pas de la morale. On a parfois des actes, on constate dans les enquêtes, des actes qui sont immoraux, mais qui ne sont pas illégaux. On ne poursuit pas.
En quête de vérité, je poursuis ma phrase, et qui doit se heurter au pouvoir pour trouver la vérité ?
Oui. Dans la mesure où le pouvoir freine et le pouvoir essaye d'étouffer les affaires, bien sûr. Donc là, je me suis retrouvé, tout au long de ma carrière, face au pouvoir. Quand Robert Boulin se suicide, il y a un pouvoir de droite. Quand je vais avoir les affaires Urba, le président de la République s'appelle François Mitterrand. Quand va arriver l'affaire Clearstream, l'affaire des frégates, il y a la droite qui est au pouvoir. Donc j'ai une constante, effectivement, c'est que je me retrouve face au pouvoir.
Le pouvoir politique ou le pouvoir de l'argent.
Oui, souvent lié d'ailleurs.
Ouais. Sauf dans un dossier célèbre, ce qu'on a appelé l'affaire Kerviel. Vous n'avez pas cru, et les tribunaux non plus, la défense de Jérôme Kerviel qui se prétendait victime d'une machination de la grande banque qu'il employait, c'est-à-dire la Société Générale.
Je ne crois pas. Je démontre. C'est mon travail. J'ai tous les éléments ont été apportés et ça a été jugé montrant que Kerviel a agi à l'insu de la Société Générale en commettant de nombreux faux. Ça a été jugé, redit, etc. Ça a été jusqu'en cassation. C'est une démonstration. Vous savez, il y a un décalage entre, j'allais dire, la vérité judiciaire, ça me fait peur, et ce que peuvent véhiculer les médias dans des stratégies de communication. Et j'ai toujours été convaincu, personnellement, que les éléments de fait, les éléments de preuve, finissent par l'emporter.
En tout cas, Renaud Van Ruymbeek, vous avez fait presque toute votre carrière à l'instruction, c'est-à-dire en homme du siège, indépendant. Vous n'auriez pas pu être un homme du parquet ?
Alors, je l'ai été.
Oui, deux ans, à Caen ?
J'étais au parquet de Caen. Et un jour, dans un dossier, on m'a dit de faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Et ça, je ne l'ai pas accepté. J'ai été convoqué par le procureur général. Et finalement, c'est lui qui était obligé, quelque part, moralement, de m'expliquer que non, c'était pas ce que je pensais, que si, que ça. Bon, moi, je lui dis, monsieur, je pars. Et je suis parti du parquet, je suis allé enseigner à l'école de la magistrature l'instruction, et je ne suis plus jamais revenu au parquet. J'ai horreur qu'on me dise ce que j'ai à faire. Voilà. C'est ma liberté totale. La moindre intervention, et d'ailleurs, je n'ai jamais eu d'intervention, on n'a jamais essayé de me convaincre de faire ci ou de faire ça. Je veux bien écouter des arguments juridiques, bien sûr. Je suis à l'écoute de ce que peuvent dire les avocats, les personnes, c'est très important. Mais l'intervention du pouvoir, non. Et ou de la hiérarchie non plus. Et de la hiérarchie non plus. Allez, il y a les deux, attention, dans la magistrature.
Et donc, en homme indépendant libre. Et libre, vous avez pu passer presque 20 ans au pôle financier du tribunal de Paris, ce qui est contraire aux usages.
Totalement. Et même contre mes principes, parce que je suis pour la mobilité.
Vous êtes pour la mobilité.
Ah, j'ai toujours été pour la mobilité.
La règle des 10 ans, d'ailleurs, qui pourrait passer à 7 ans, oui.
Oui. Mais j'ai été bloqué par le pouvoir politique. Je devais partir en 2006. Au bout de 6 ans, j'étais programmé à la cour d'appel. Arrive l'affaire Clearstream. Le pouvoir politique aurait pu me laisser partir. Ah ben non, ils m'ont collé une procédure disciplinaire, qui a échoué d'ailleurs. Mais pendant ce temps-là, mon avancement, puisque je devais partir à la cour d'appel, a été bloqué, donc je suis resté dans mes fonctions.
Donc ces 10 ans supplémentaires, vous les devez à Nicolas Sarkozy.
C'est vous qui prononcez le nom de cette politique.
Est-ce qu'il vous arrive de vous dire parfois qu'en bonne logique, vous auriez dû finir en haut de la hiérarchie, Renaud Van Ruymbeek ?
Alors, j'ai un rapport avec la hiérarchie qui est, dès le départ, je n'aime pas la hiérarchie. Je n'aime pas le corporatisme. Moi, j'ai des idées républicaines, j'adore la Révolution française, la nuit du 4 août, etc. Et cette espèce de corporatisme avec la hiérarchie, c'est quelque chose que je rejette complètement. Donc moi, ce qui m'importait, c'est de pouvoir faire ce que j'ai fait librement. Voilà. Ouais. Et j'ai toujours... Je vis dans une démocratie, j'ai pu le faire.
Vous auriez pu être libre comme président de cour d'appel, ou de chambre de cour d'appel, ou premier président de cour d'appel. Ce qui devait normalement vous arriver il y a 10 ans.
Oui, mais je pense qu'on préfère des profils plus consensuels.
D'accord. C'est la phrase que vous avez mise en exergue de votre « Que sais-je » sur le juge d'instruction, tout temps consacré au travail est perdu pour la carrière.
Elle me fait rire à chaque fois, cette phrase.
Donc, du coup,
elle n'est pas de moi, hein. Je l'ai trouvée un jour, j'ai dit « Ah, ça c'est extraordinaire
!» On en reparle dans un instant avec vous, Renaud Van Ruymbeek, la politique, les politiques et la lutte contre l'argent sale.
Europe 1. Le samedi de 9h à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen avec « C'est arrivé cette semaine » sur Europe 1.
Avec notre invité spécial de « C'est arrivé cette semaine », Renaud Van Ruymbeek, qui arrête ses enquêtes, referme ses dossiers, qui ne sera plus le cauchemar des politiques. Alors, on a cité le nom il y a quelques minutes, on parlait de Nicolas Sarkozy, Et on va y revenir parce que c'est pas banal pour un magistrat d'être ciblé par un président de la République. Mais avant Nicolas Sarkozy, il y a eu François Mitterrand. C'était en 92, l'affaire Urba. Vous conduisez une perquisition au siège du parti au pouvoir, le PS, rue de Solferino. Première fois, je crois, qu'un parti politique est perquisitionné. Oui. Henri Emmanuelli, ex-trésorier du PS, devenu président de l'Assemblée nationale, va être inculpé. Et on va réécouter quand même quelques extraits. Hein. Entre autres prises de parole, un ex-président du Conseil constitutionnel, Daniel Meyer, et un futur, Laurent Fabius.
S'il s'agit sous couvert de procédure de salir le parti de Jaurès et de Blum et finalement l'ensemble de la démocratie représentative en France, cela nous le combattrons et nous ne l'accepterons jamais.
Il n'y a pas d'affaire Emmanuelli. Il pourrait peut-être, s'il continuait à être plus antisocialiste qu'anticorruption, y avoir une affaire Van Rumbeck.
Laurent Fabius et Daniel Meyer au micro de Bruno Cesnec sur Europe 1 en juillet 92. Une affaire Van Rumbeck. Vous ne mourrez pas d'envie de leur répliquer ?
Oui, évidemment, mais je ne peux pas. C'est facile de lancer des accusations devant des militants qui vous applaudissent. Mais tout ça, je ne me souvenais plus la violence de ces propos. C'est hallucinant.
Ah, c'est très violent, c'est très violent. Roland Dumas parle de complot politique.
C'est de la manipulation, la pure manipulation. On manipule des gens du parti. C'est du parti pris. Je suis désolé, Henri Emmanuelli a été condamné, il a été jusqu'en cour de cassation, donc ma procédure était parfaitement régulière. Ça veut dire qu'ils estiment qu'en tant que parti politique, et c'est un parti politique au pouvoir, ils n'ont pas de compte à rendre à la justice et donc aux citoyens. Et je trouve ça extrêmement grave. Et en arriver à lancer des attaques personnelles comme ça contre le juge, qu'est-ce qu'ils ont à me reprocher ? Mais qu'est-ce qu'on me reproche ? Si ce n'est d'enquêter. Ah bon, bah alors il ne faut pas enquêter. Eh bien, vous allez expliquer aux militants et aux gens qui votent pour vous qu'il n'y aura jamais d'enquête sur les partis politiques parce qu'ils sont protégés. Voilà.
Et 4 jours plus tard, 4 jours après ce qu'on vient d'entendre, le 14 juillet, pire encore, c'est le président de la République qui vient défendre publiquement celui que vous allez inculper.
J'ai la plus grande estime et considération pour Henri Emmanuelli, qui est un homme qui s'est fait tout seul à partir d'une famille extrêmement modeste, un homme plein de conviction et de force et d'une grande intégrité. Alors je plains, j'ai mal au cœur quand je pense au sort qui lui est réservé, c'est-à-dire d'avoir à s'expliquer devant la justice, le cas échéant, parce qu'après tout les procédures sont assez bizarres dans cette affaire, le cas échéant inculpé.
Pression maximale par François Mitterrand. Là, vous vous dites, je tiens tête, je suis en train de tenir tête au président de la République ou vous essayez de ne pas y penser, Renaud Van Rumbeck ?
Il se protège. Il ne s'exprime pas comme président de la République. Président de la République, il est garant de l'indépendance de la magistrature. Il s'exprime comme président d'un parti politique et il craint qu'on aille enquêter sur les financements de ce parti politique. Il se protège. Il va mettre des... Donc, il est peut-être que solidaire d'Henri Emmanuelli. Bon, qu'il dise c'est un homme intègre, c'est un homme honnête, qu'il livre son sentiment très bien, mais il n'a pas interféré comme ça dans le cours de la justice. Vous imaginez aujourd'hui, imaginez que le président de la République, M. Macron, tienne ce type de propos à propos d'une enquête qui concerne l'un des siens.
Il l'a fait un peu avec Benalla.
Je ne comparerai pas, parce que là, on a imaginé du financement politique, le financement de son parti. Il est garant de l'indépendance de la magistrature. Il a juste oublié ça.
Dans la même interview du 14 juillet, François Mitterrand disait que ce qui le chiffonnait, c'était le mot « inculpé », inculpation, qui était infamant, qu'il fallait trouver un autre terme, ce qui sera fait par une loi 6 mois plus tard. C'est un peu à vous qu'on doit la mise en examen au lieu de l'inculpation, Renaud Van Rumbeck.
Oui, mais vous ne trouvez pas ça un peu anormal qu'on se pose la question à partir du moment où on est concerné ou un de ses proches est concerné? Tous les gens qui ont été inculpés avant pour des hold-up, pour des vols, etc., on n'en a rien à faire. Là, c'est pas grave, on peut dire qu'ils sont inculpés. Il peut y avoir des articles dans la presse, c'est tout à fait normal, on se pose pas la question. Ils ont des enfants, ils ont une femme, etc. Enfin, le citoyen lambda, il peut être inculpé, mais pas eux. C'est ça ce que ça veut dire. Et à partir du moment où l'un d'entre eux se retrouve inculpé, ah ben non, mais là c'est infamant, bien sûr, et là on fait une loi pour changer.
Avec Henri Emmanuelli, que vous avez donc inculpé, je crois que c'était en septembre 92, ça a été très orageux, il a joué la confrontation dans votre bureau. Vous avez souvent eu face à vous des politiques qui considèrent que vous n'êtes pas légitime à les interroger ou à les poursuivre ?
Oui, c'est arrivé. Pas à ce point-là. Là, c'est vraiment... il fallait que je commence par répondre à ses questions avant qu'il commence à répondre aux miennes. Et son discours, c'est « Moi, j'ai une légitimité, je suis élu. Vous, vous n'êtes qu'un juge qui avait passé un concours un jour, donc vous n'avez aucune légitimité pour me juger. » Encore, je n'étais pas là pour le juger, mais pour instruire. Ça veut dire que c'est un homme politique. Il est quand même président de l'Assemblée nationale et il considère qu'il n'a aucun compte à rendre à la justice. Jusqu'où ça va ? Dans un pays anglo-saxon, on ne peut pas le concevoir une seconde. On a un minimum de respect pour la justice. Sauf si le juge fait n'importe quoi. Ok, d'accord, mais...
Ça a évolué un peu. Les hommes politiques se sentent de moins en moins intouchables, vous diriez ?
Ah oui, ça a beaucoup changé. Vous savez, vous retrouvez en première ligne. Bon, vous prenez des coups, mais le passage est fait après. Et puis l'opinion publique, allez demander aux citoyens ce qu'ils en pensent. Allez lui demander ce qu'il en pense.
Nicolas Sarkozy, il vous déteste, enfin il s'en cache à peine, il l'a écrit dans plusieurs livres. Ça a compliqué votre instruction, Renaud Van Ruybeck ?
Ce qui m'a compliqué les choses, c'est l'affaire Clearstream. Parce que là, j'ai un informateur qui va me donner des informations qui vont se révéler fausses.
Jean-Louis Gergorin.
Voilà. Et on va dire, ah ben voilà, il est parti sur de mauvaises pistes, donc haro sur le juge. Sauf que, on oublie qu'une chose, c'est que qui prouve que tout ça est faux ?
C'est vous.
C'est moi, c'est par vous. Mes investigations.
Mais avec retard, dit Nicolas Sarkozy, il vous a fallu 18 mois, etc.
Écoutez, je suis heureux de l'entendre dire, parce que dans tous les dossiers où il y a des commissions rogatoires internationales à l'étranger, je me plains depuis l'appel de Genève des retards. Donc pour une fois qu'il y a un homme politique qui se plaint du retard, j'applaudis.
Vous ne nourrissez aucun ressentiment à l'égard de Nicolas Sarkozy.
Non.
Il est plus aimable avec vous d'ailleurs dans son tout dernier livre, là, paru cette semaine, il parle de vous comme d'un juge redoutable et respecté. Voilà, ce sont les deux adjectifs qu'il emploie à votre égard. Et donc, il n'y a plus les choses. Parce que, voilà, il faut rappeler que vous êtes connu lors d'un déjeuner en 99 à Bordeaux. Il tente de vous séduire. Vous échangez sur une passion commune, le football, mais vous critiquez l'excès d'argent dans ce milieu. Et il s'en étonne ensuite. Il en témoigne dans un livre.
Oui,
dans
mais
un
parce qu'il prend tout au premier degré. Lors de ce déjeuner organisé par l'école de la magistrature, je ne sentais pas ce déjeuner parce que j'étais juge, un politique, bon, je ne sentais pas trop. Et si vous voulez, je sentais qu'il m'attirait un peu vers lui, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Et donc il va sur le terrain du football, sachant que j'aime le football. Et je ne sais pas comment lui dire que... Non, on n'ira pas voir un match de football ensemble. Donc, je trouve cette dernière... Mais ce dernier... Oui, mais le foot, j'aime bien, mais il y a trop d'argent dans le foot. Bon, c'est devenu, dans son livre qu'il écrit, 2 ans plus tard, que je n'avais même pas lu d'ailleurs, c'est devenu... Ce juge a une telle haine de l'argent que même le foot, il considère que...
Oui, c'est bizarre d'avoir...
Moi, ça me fait rire.
Au pôle financier, un juge qui a un problème,
oui, bon,
un tel problème avec l'argent, c'est
chacun
ça.
Est libre de dire ce qu'il veut.
Vous votez aux élections, Renaud Van Ruybeck ?
Si je vote aux élections, oui. Bien sûr, je vote.
Alors, je ne vais pas vous demander pour qui, mais selon quels critères est-ce que vous votez ? Qu'est-ce qui fonde votre choix ?
Ce qui fonde mon choix ? L'honnêteté, évidemment. Je ne vais pas voter pour quelqu'un que je considère comme malhonnête. Ce n'est juste pas possible dans ma tête. Mais je vote en fonction de ce que je pense, le candidat qui est le mieux... Qui va mieux correspondre aux intérêts du pays, à l'intérêt général. C'est ça qui me guide. Puis je suis européen, je suis pour l'Europe, je suis contre le populisme, les nationalismes, etc. Et je me suis rendu compte dans l'activité judiciaire que tout ça, c'était des remparts qu'il fallait éliminer. Au contraire, donc je suis très écologique. Je trouve que c'est quelque chose qui nous menace tous. C'est l'écologie. Il faut modifier ses comportements personnels. Je crois que ça, c'est important. Il faut aussi qu'il y ait une vraie politique écologique. Et la lutte contre la corruption, évidemment, est un élément. Je ne suis pas uniquement focalisé là-dessus. Mon travail, c'est une chose. Ma vie, c'en est une autre.
Renaud Van Ruybeck, interview, bilan après 42 ans de magistrature et d'affaires sensibles. Qu'est-ce qui a changé dans la lutte contre l'argent sale et dans le fonctionnement de la justice ? On voit cela dans un instant.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Ce qui est arrivé cette semaine, c'est donc le départ à la retraite du juge sans doute le plus célèbre de France, Renaud Van Ruymbeek, notre invité jusqu'à 10h. La première fois que vous avez pris la parole, Renaud Van Ruymbeek, c'était sans doute pour l'appel de Genève, oui. 1996, avec 6 autres magistrats anticorruption. Vous demandiez un espace judiciaire européen qui n'existe toujours pas, mais il y a eu quand même des avancées, des progrès, des échanges d'informations. Quel est le bilan que vous tirez ?
On avance, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a une prise de conscience. Aux États-Unis, ça a avancé aussi, avec des grandes lois, etc., notamment en matière fiscale, parce que le fiscal permet beaucoup de fraudes, beaucoup moins avouables que le sport, l'ex-sport national, hein, bon, qui n'en est plus un aujourd'hui, il me semble, tel que c'est perçu.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que frauder le fisc il y a 20 ans, ce n'était pas grave. Aujourd'hui, la plupart des citoyens considèrent que non, ce n'est pas normal du tout. Parce que c'est des milliards qui partent, ce ne sont pas les plus pauvres, hein, et toute la collectivité en pâtit. Et tout ça, dans cette mondialisation qui nous envahit, contre laquelle on ne peut rien faire, mais qui n'est pas régulée. Il n'y a aucune régulation. On régule en France. Oui, en Allemagne, dans chacun des pays, dans les frontières, mais à l'échelle internationale, la régulation n'existe pas. Donc dès lors que vous avez quelques zéros à la clé, que vous pouvez aller dans tel pays, à Dubaï, à Gibraltar ou je ne sais où, c'est l'impunité assurée.
Dubaï, Gibraltar, ce sont les nouveaux territoires, puisque sur le territoire européen, ça s'est un peu restreint.
Alors,
le Liechtenstein coopère, le Luxembourg, oui. D'autres pays se...
Alors Gibraltar, il y a du mieux.
Oui.
Il y a du mieux. En Europe, ça va beaucoup mieux. Mais il y a des pays comme Dubaï. Alors là, Dubaï, écoutez, si vous avez un mandat d'arrêt, vous allez à Dubaï. Si vous avez beaucoup d'argent, c'est parfait. On ne vous demandera jamais rien.
Ouais.
Vous avez une impunité totale. Et pourtant, Dubaï, regardez sur CNN, Dubaï s'est présenté comme la cité, le miracle du désert, etc. Enfin, là aussi, on est en pleine hypocrisie. Arrêtons.
Donc pour résumer, il y a moins de places offshore, mais il y a plus d'argent sale qui circule ?
Oui, et c'est ça le paradoxe. Mais vous savez, c'est dès lors qu'il y a un trou dans la raquette, même s'il y en a moins, tout va aller dans ces trous. Et il y en a qui sont bien contents de récupérer cet argent, parce que l'argent sale, c'est une composante... je ne dis pas que tout l'argent du monde est sale, ce n'est pas mon discours. Il y a une partie d'argent sale, simplement elle existe. Alors, le but, c'est de la rapatrier et de la lessiver, de la récupérer et de faire payer l'impôt sur cet argent.
C'est la fraude fiscale. Et puis, il y a aussi cette zone grise, ce qu'on appelle l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale dans le langage des entreprises. Vous pensez que ça peut évoluer et qu'on n'arrivera plus bientôt à distinguer l'évasion et la fraude fiscale ?
Écoutez, un citoyen qui ne déclare pas une partie de ses revenus, voilà, c'est une déclaration à remplir, on va le dire, c'est de la fraude fiscale. Un monsieur qui a quelques zéros à la clé, qui veut s'acheter un avion, va monter une société, c'est pas lui qui va le faire, hein, y en a d'autres qui vont s'en occuper, il y a toute une ingénierie pour faire un faux leasing, faire un faux contrat, etc. Et là, on va dire, ah ben non, c'est pas de la fraude fiscale, c'est de l'évasion fiscale, c'est légal. Je pense qu'à terme, la question va se poser. Je le dis à l'attention de tous ceux qui ont des avions qui ne sont pas à leur nom, d'autres sociétés offshore, etc., que des yachts, pareil, qui sont immatriculés à Panama ou je ne sais où, je leur dis de façon totalement détachée et désintéressée, peut-être qu'un jour, l'administration fiscale se posera la question de savoir s'il y a de la fraude ou pas.
Très bien. En tout cas,
on se fait plaisir.
J'imagine qu'au fil des ans, vous avez constaté avec satisfaction à quel point ces questions sont entrées dans le débat public. Enfin, on en parle
oui.
tout le temps.
Mais tant mieux. Tant mieux. C'est un vrai sujet. Pour moi, c'est comme la pollution. C'est deux thèmes majeurs. C'est un, l'air qu'on respire. Et deux, par qui on est gouverné ? Comment est-ce que c'est transparent ? C'est un problème de démocratie.
Le secret de l'instruction, Renaud oui. Van Ruymbeek, est-ce qu'il a encore un sens ?
Non. Le secret de l'enquête, oui. Le secret de l'instruction, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que demain, il y a un attentat terroriste. Demain, il y a un attentat terroriste. Je suis désolé, secret de l'enquête, secret de l'instruction. Ça veut dire qu'on n'en parle plus.
Si, le procureur est habilité.
Bon,
alors. Il fait des conférences de presse, enfin
bon. Pourquoi est-ce que le procureur terroriste peut le faire et pas le procureur financier? Et pourquoi il ne pourrait pas le faire? Il n'y a qu'une procédure pénale, que je sache. Et je suis allé récemment au Brésil. J'ai assisté à une perquisition le matin à 6h du matin. Conférence de presse par le parquet à 11h du matin. Et le procureur de la République livre toutes les informations, y compris tout ce qu'on a trouvé le matin en perquisition. Et il répond aux questions. J'en ai, vous pensez que, etc. Bon, je suis estomaqué. Quand je rentre, je me dis, finalement, où est le mal? Et quand j'en ai parlé à mes collègues du Brésil, ils disent ceci, et c'est ancré chez les personnes. On a connu la dictature. Le secret, c'est la dictature. La démocratie, c'est la transparence. S'il y a quelque chose à cacher, c'est que c'est pas bien, quelque part. Donc, il y a cette mentalité, et je crois qu'il faut aller vers ça. Il faut assurer une communication équitable à définir. Il faut revoir notre procédure.
Le secret, c'est aussi un moyen de préserver la présomption d'innocence, aussi, non, Renaud Van Ruymbeck?
Oui, mais...
D'éviter l'opprobre pour ceux qui sont désignés.
Mais commençons par dire qu'une personne qui est soupçonnée n'est pas une personne condamnée.
Renaud Van Ruymbeck, jeune retraité de la magistrature.
J'aime beaucoup l'expression, merci de l'expression jeune.
Encore quelques questions dans un instant.
Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Europe 1, jusqu'à 10h, on vous retrouve Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine.
Avec Renaud Van Ruymbeck qui a été un juge obsessionnel pendant 42 ans, vous acceptez
non.
L'adjectif non.
Non. Non,
dans le sens où
non.
Vous avez été, c'est ce qu'on a souvent décrit, passionné par son métier, ne
passionné.
Comptant pas vos heures pour faire avancer un dossier, premier arrivé, dernier parti au palais de justice.
Oui, ça je... C'est pas tout à fait vrai, mais j'aime bien qu'on le dise.
C'est flatteur.
C'est trop flatteur. Non, j'ai une vie à côté. Je suis pas obsessionnel. J'adore ce que je fais. J'adorais ce que je faisais. J'ai agi en toute liberté. J'ai eu des problèmes. J'ai eu des attaques. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ça fait partie, je dirais presque, de la règle du jeu. Je l'assume. Voilà. J'ai une vie à côté. J'ai deux activités. Et c'est pas une obsession.
On va
du
en
tout.
Parler. Mais vous avez adoré quoi? Mener des enquêtes,
oui.
C'est ça, surtout.
Chercher. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est ne pas trouver. J'aime pas l'échec.
Oui.
Ce que j'aime, c'est chercher et finir par trouver, démontrer, expliquer, et ensuite je renvoie devant le tribunal qui, lui, prendra ses responsabilités au niveau de la condamnation, etc. Mais moi, mon travail, ça consiste à expliquer quelque chose qui... Alors, plus c'est compliqué, c'est vrai, plus c'est intéressant, quelque part. Donc, c'est l'intérêt de chercher, voilà. C'est ça, c'est le métier du juge d'instruction.
Quels échecs vous ont chagriné, Renaud Van Ruymbeck?
Les frégates de Taïwan.
Secret défense.
Voilà.
Le secret défense a...
Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter.
Oui.
C'est vrai.
C'est donc une passion dévorante qui ne vous dévorera plus.
Non.
Mais il restera... Entre autres choses, la musique, le piano. Je voulais qu'on ait dans cet entretien un intermède musical qui vous corresponde. Alors, ça aurait pu être Liszt, Rachmaninov, Beethoven.
Oui.
J'ai choisi Schubert.
Ah, parfait. Oui.
La mélodie hongroise de Schubert sous les doigts, non pas de Renaud Van Ruymbeck, mais d'Alfred Brendel. Ça aurait pu, Renaud Van Ruymbeck, vous auriez pu faire le conservatoire plutôt que l'école de la magistrature?
Je me suis pris un peu tard. Le niveau auquel je suis arrivé à 20 ans, il aurait fallu que je l'aie à 14-15 ans. C'est extrêmement compétitif.
Oh bah, il manquait pas grand-chose alors.
Et quand même, 5 années, c'est énorme. Non, c'est un rêve non accompli.
Mais vous auriez pu être... concertiste, oui.
J'aurais rêvé de l'être, mais en même temps, j'étais, J'ai un père qui, on était dans le service public, il considérait que, bon, c'est bien la musique, mais c'est pas du travail, c'est pas, t'es pas utile pour la société. Donc, quelque part, je pense que ça a joué. J'ai toujours cette part de piano. C'est...
Vous avez gardé du temps et des heures de piano au plus fort de votre travail, et même dans des moments...
Oui, mais c'est pour ça que je n'étais pas le premier au Palais Justice et le dernier à partir le soir.
Qu'est-ce que vous y trouviez dans ces moments-là et dans cette discipline, cette pratique du piano, une discipline, une exigence?
Oui, une exigence, une rigueur, et surtout, quand vous travaillez des morceaux comme celui-là, plus rien n'existe, plus rien ne compte. Vous faites le vide absolu, la musique c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Donc on efface tout, et puis quand on revient à son travail le lundi, on l'a relativisé complètement, on s'y remet, le vide est fait, et on est reparti. Ça a un effet, je dirais pas de contrebalancier, mais ça fait partie de l'équilibre.
Vous parvenez dans ces moments-là à vous abstraire complètement, des soucis et des dossiers les plus lourds.
Bien sûr, parce que on est largement au-dessus. On n'est pas dans le même monde. Voilà, donc tout ce que vous pouvez faire au quotidien est relégué bien en dessous.
Merci Renaud Van Rumbeek.
C'est moi qui vous remercie.
Et bonne retraite.
Merci.
Retrouvez C'est arrivé cette semaine tous les samedis de 9h à 10h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.